À 23h06, nous accueillons Florence au 3921. Bonsoir Florence.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Florence et quel âge avez-vous?
Je vous appelle de Besançon, j'ai 48 ans.
D'accord, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi Florence.
Depuis aujourd'hui, j'ai commencé une grève de la faim avec mon époux parce que je suis mariée avec un ressortissant marocain qui est rentré illégalement en France.
Oui.
Et pour lequel on n'arrive pas à avoir de régularisation.
D'accord. Quand est-il rentré en France?
Il est rentré en France en 2015.
Mmh.
On s'est rencontrés, nous, en 2017. On s'est mariés en 2020.
Oui.
Et suite à notre mariage, on a demandé sa régularisation,
oui.
À savoir qu'il a une promesse d'embauche aussi.
Mmh.
Et ça s'est soldé par un échec. Suite à ça, on a fait des démarches auprès des tribunaux administratifs de Besançon, qui n'a rien arrangé. Et de plus, lorsqu'on lui a refusé son titre de séjour, on l'a sorti d'un OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc aujourd'hui, c'est très très compliqué pour nous.
Oui.
On a épuisé toutes les solutions administratives, judiciaires, et on n'a plus d'autre solution aujourd'hui que de mener un combat, et c'est pour ça qu'on a entamé une grève de la faim.
D'accord. Alors, on va rentrer dans le détail de votre histoire pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui vous entamez cette grève de la faim. Mais moi, j'ai envie de vous entendre d'abord me raconter l'histoire de votre mari, parce que j'avais cette discussion aujourd'hui avec une jeune réalisatrice qui venait me parler d'un projet de une collection de portraits, de documentaires. Elle avait cette idée qu'à l'approche des présidentielles, il fallait rappeler aux Français que finalement, nous avions tous une histoire et des ancêtres qui venaient de loin pour pas mal d'entre nous. Et qu'on est beaucoup aujourd'hui à l'ignorer et pour certains à ne pas vouloir même l'admettre. Mais nous avons, alors pour beaucoup d'entre nous, des origines lointaines en France.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il est bon toujours de rappeler, je le dis souvent sur cette antenne, que l'on met beaucoup de choses sur le dos des migrants et des immigrés. On va aller coller tous les maux de la terre sur... et tous les maux de la France, sur le dos de oui. ces personnes qui viennent ici, en France. On en oublie, même on ne veut pas savoir pourquoi ils sont là. Ce qu'ils ont fui. Souvent la guerre, souvent des pays où la liberté d'expression n'existe même pas, où le seul oui. droit qu'on ait, c'est de la fermer, sous peine d'être battu, emprisonné, ou même tué. Il y a beaucoup de raisons que nous, qui sommes là ce soir, dans notre pays, natifs de France, il y a sûrement ces décisions qu'eux ont prises à un moment que nous aurions prises, nous-mêmes, si nous avions vécu ce même type de situation. C'est-à-dire sauver notre peau, pour certains, oui. manger. Et donc, c'est important de le rappeler. Et c'est ce pourquoi j'aimerais que vous me disiez déjà pourquoi il est venu là, en 2015. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment, il a voulu bouger et venir ici?
Il est parti du Maroc parce que le Maroc, on en voit toujours le beau côté, ce pays touristique magnifique. Mais la vie au Maroc n'est pas simple. Il a travaillé de longues années avec son père qui, suite à un accident... n'a pas pu continuer et en fait il est venu en France pour avoir une vie meilleure, pour pouvoir soutenir sa famille aussi. Oui. Il a quitté son pays dans l'espoir d'une vie meilleure, dans l'espoir de pouvoir aider ses parents qui eux ne peuvent plus travailler, son papa est quasiment handicapé, sa maman est malade. Donc il est venu ici pour les aider. Il avait déjà une sœur qui est présente ici.
Oui.
Et il est venu la rejoindre en disant qu'ici, il pourrait avoir une vie meilleure et pouvoir soutenir sa famille.
Et il y a trouvé l'amour en plus.
Et il y a trouvé l'amour.
Et là, j'ai envie de vous dire, moi, que quand on trouve l'amour, là, c'est le sésame pour... Il n'y a pas de discussion possible, normalement. Qui sont ces gens pour lui interdire aujourd'hui de fonder sa famille avec vous, de vous aimer, peut-être de refaire des enfants, je ne sais pas. En tout cas, de vivre tous les deux l'amour que vous avez choisi de vivre. Parce qu'il y a des situations qui peuvent prêter à confusion. Nous ne sommes pas ici dans le monde des bisounours. Et on sait qu'il y a des mariages qui sont arrangés, qui sont... voilà, on sait qu'il y a des gens qui... viennent ici et il est certain qu'il y a une situation aujourd'hui ici qui ne permet pas non plus que tout le monde vienne ici, comme en Allemagne, comme en Italie.
Tout à fait.
Mais il y a des gens qui viennent ici et qui travaillent et qui cotisent et qui payent des impôts et qui, au bout de parfois 10 ans, alors qu'ils ont cotisé, on leur dit non, il faut que vous rentriez chez vous maintenant.
Oui.
Bon, voilà. C'est étonnant. On peut s'en étonner en tout cas. Vous vous aimez tous les deux.
Oui.
Ça n'a pas suffi, ça. Il n'y a pas eu d'enquête morale sur vous, je ne sais pas, on appelle ça des enquêtes de moralité ou de voisinage. Et... on n'a pas prouvé que vous étiez, que c'était vraiment une vraie histoire d'amour. Je suppose que vous avez des amis, vous avez une famille aussi. Vous, est-ce que on a apporté des témoignages pour soutenir la véracité de cette histoire d'amour?
Oui, bien sûr, on a apporté des témoignages, bien sûr. Mais non, il n'y a eu aucune enquête. Personne n'est venu nous voir. J'aurais aimé qu'on vienne nous voir, qu'on vienne nous parler, qu'on vienne se rendre compte de la véracité de nos sentiments. J'aurais aimé ça. J'aurais préféré ça plutôt qu'un refus et de mettre en doute notre parole. J'aurais préféré qu'on vienne fouiller dans ma vie, à la limite, et qu'on se rende compte, oui. Aujourd'hui, ce qui manque, je pense que c'est d'avoir un vrai interlocuteur. On a un dossier, on passe en préfecture, il est rentré sans visa, c'est classé, c'est terminé. On se penche pas sur le côté humain. C'est des décisions qui peuvent briser des vies. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Moi, j'ai vu sur des forums internet des tas de témoignages de personnes aujourd'hui qui sont séparées. Ils vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre parce qu'on n'accorde pas un titre de séjour, parce qu'on met en doute la parole des gens. Et c'est vraiment très très difficile. C'est très difficile. Aujourd'hui, mon mari, il demande juste le droit de travailler, le droit de vivre dignement. Il souffre énormément de cette situation. Il souffre du fait d'être dépendant de moi. Donc c'est vraiment très compliqué.
Et je suppose qu'aujourd'hui, il est ici, il se sent français aussi.
Ah ben, il est parfaitement intégré, bien sûr. Déjà, il a de la famille sur place. Il a sa sœur qui est ici depuis 22 ans. Mais aujourd'hui, il fait partie intégrante de ma famille. J'ai des enfants d'un précédent mariage. Voilà, il fait partie de notre famille.
Mmh. Vous voyez, il n'y a pas de poids, de mesure. C'est ça que je regrette, moi, et qu'on est beaucoup à regretter. C'est-à-dire que, voilà, pour... je pense que votre mari aussi paye aussi toutes ces personnes aussi qui arrivent ici, alors poussées toujours, hein, pour des raisons X, Y, à venir ici, mais qui peuvent aussi commettre des délits et finalement, ils sont là, ils font des bêtises. Bon, il n'y a pas le choix. Si vous faites des bêtises, oui. Vous êtes ici. Mais là, votre mari, il est marié avec vous, il travaille, enfin... Est-ce qu'il a réussi à décrocher son boulot dans le BTP?
Oui, il a une promesse d'embauche qui l'attend, mais pour l'instant, il ne travaille pas parce qu'il n'a pas le droit.
D'accord.
Il n'a pas le droit de travailler.
D'accord, ça, je n'avais pas compris ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a un boulot qui l'attend, mais le patron ne peut pas l'embaucher tant qu'il n'a pas l'autorisation, en fait.
Exactement.
Parce que s'il l'embauche, il ne sera pas assuré, tout ça, en fait. Il ne peut pas l'embaucher.
Oui, oui,
pour
non. Le patron se mettrait dans l'illégalité totale. Et ça fait depuis janvier 2020 que cette promesse d'embauche est courte, parce que c'est le BTP, ils ont du mal à recruter, c'est compliqué pour eux aussi. La promesse d'embauche a été réitérée en 2021, en janvier 2021, envoyée directement à la préfecture. Mais non, ça n'a pas fait pencher la balance.
Il faut aussi dire ici, on en profite, hein, Florence, en tout cas j'en profite,
oui.
Pour dire aussi qu'il y a beaucoup de travaux dans le BTP, dans les routes, tout un tas de travaux où la pénibilité est accrue vraiment et qui aujourd'hui est exécuté par des personnes comme votre mari, des personnes qui viennent de l'étranger et qui ont le courage de faire un travail que beaucoup, pour ne pas dire la plupart des travailleurs potentiels, refusent de faire.
C'est ça.
Et ça, on ne l'entend pas beaucoup dans le débat public. Mais il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder quand vous passez près de gros chantiers, quand vous passez dans des aéroports, dans des gares, à voir qui s'occupe de la propreté de ces gares, qui s'occupe de la propreté des voies, les gros chantiers. Regardez bien qui construit aujourd'hui et qui transporte le ciment, les trucs durs. Regardez quand vous êtes sur une déviation, ceux qui coulent le goudron, là, qui, vous savez, tous ces travaux qui sont bien durs, bien... regardez la tête des travailleurs. Je vous invite les uns les autres à regarder et à faire aussi un constat. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce courage de faire et qu'on ne peut pas, en deux mots, réduire cette situation à « il n'est pas français, il n'a pas ses papiers, donc il doit rentrer chez lui ». Ça n'est pas possible de réduire la situation comme ça. D'autant plus que vous vous êtes marié. Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans ces cas-là. Vous vous êtes marié à la mairie et donc il y a bien eu un maire qui a validé votre union.
Tout à fait.
Et donc, comment se fait-il qu'un maire, donc, qui est un élu politique, mais un élu du peuple, valide cette union et qu'après, on refuse que le marié reste en France alors qu'il a tout ce qu'il faut pour rester. C'est là, en fait, je ne sais pas comment ça se passe. Vous avez affaire à qui ? Comment ça se passe ? Racontez-moi.
Tout simplement, comme n'importe qui, quand vous prenez rendez-vous à la mairie pour vous marier, bien sûr, vous signalez bien sûr que la personne n'a pas de visa, de toute façon, pas de carte de séjour, donc pas le choix. On vous prévient que s'il arrive quelque chose, que si cette personne tombe malade, que ça sera à vos frais parce que vous serez marié, vous devrez répondre des dettes possibles, des choses comme ça. On vous prévient de ça. Mais à savoir que le mariage en France est un droit. Donc on ne peut pas vous empêcher de vous marier.
D'accord, je ne savais pas ça.
Donc voilà, donc quelquefois il y a des enquêtes. Pour nous, il n'y en a pas eu.
C'est bien dommage.
Oui, c'est bien dommage. Et voilà, on s'est marié normalement, comme tout couple normal. On nous a délivré un livret de famille, comme tout couple normal.
D'accord. Mais ça, c'est une obligation, en fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
Oui.
D'accord. Et aujourd'hui, donc, il est sous le coup d'une expulsion. Comment les choses pourraient-elles tourner au plus grave, finalement ?
Au plus grave, on peut venir le chercher à n'importe quel moment chez nous. On peut venir le chercher, le mettre en garde à vue, puis le mettre en centre de rétention avant de le renvoyer au Maroc.
Oui.
Au plus grave, voilà ce qui peut se passer.
Et donc comment vit-il là ? Comment vit-il cette situation ? Il ne sort pas, je suppose ?
Il sort très très peu, évidemment. Il a peur constamment du contrôle de police.
Bien sûr.
Depuis le pass sanitaire, encore pire, parce qu'il a son pass sanitaire, mais si c'est un contrôle de police, c'est pass sanitaire et papier d'identité.
Oui.
Donc à partir du moment où il déclinera son identité, il est fiché, en fait.
Donc, il est fiché, oui.
Voilà, tout à fait. Donc le moindre contrôle de police peut être catastrophique.
On a parlé de lui, maintenant on va parler de vous, jeune marié.
Oui.
Comment est-ce que vous vivez ça en tant que femme, qu'on veuille vous arracher comme ça à votre mari ?
Moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse infliger ça. Enfin, je sais pas. Je suis citoyenne française, je paye mes impôts, j'ai toujours exécuté mes devoirs. J'en veux quelque part, j'en veux à mon pays de réagir comme ça, de mettre en doute ma parole. Je suis consciente de tout ce qui se passe, je suis consciente des problèmes d'immigration, je ne suis pas dans une bulle, je suis consciente de tout ça, comme vous disiez tout à l'heure, il y en a qui sont là, qui profitent de notre système, qui commettent des crimes, ce n'est pas du tout le cas de mon mari, c'est quelqu'un de très bien, et c'est pour ça que je voudrais absolument pouvoir rencontrer quelqu'un, rencontrer le préfet, pour ne pas le nommer, mais...
Ça pourrait commencer, je vais vous dire, parce que vous avez raison d'évoquer votre position de citoyenne, de personne qui paye ses impôts, qui a été votée. Le maire, vous êtes marié dans un petit bled ou vous êtes marié dans une ville ?
Non, on s'est marié à Besançon.
Bon, le maire de Besançon, vous pouvez l'interpeller en tant que...
Ah, mais je l'ai fait.
Et donc, il ne vous répond pas, le maire de Besançon ?
Aucune réponse. Je n'ai aucune réponse. J'ai interpellé à plusieurs reprises, je n'ai aucune réponse. J'ai interpellé les élus, hein, députés, sénateurs de la région. Certains, deux en fait, m'ont prêté attention. Un a voulu intervenir auprès de la préfecture, mais ça n'a rien donné.
Lesquels, vous pouvez souligner au moins l'effort de ces élus, parce que c'est déjà bien d'avoir essayé, d'avoir tenté.
Ah ben bien sûr.
Vous êtes allé voir qui, en fait
je suis allée voir le sénateur, monsieur Jean-François Longeau, qui lui a intervenu auprès de la préfecture, personnellement, donc j'en suis très reconnaissante. Et le député monsieur Éric Allauzet.
Bon, il est bon aussi, vous voyez, de le dire ça, parce qu'il ne faut pas dire que les politiques prennent nos votes et ne font rien. Il y en a certains, je le sais, qui se bougent, en tout cas qui essaient. Mm-hmm. Et même eux, en fait, ils n'ont rien obtenu.
Non, non, non.
C'est-à-dire pas de réponse, rien, pas de...
Si, réponse. Alors, au moment où le sénateur est intervenu auprès de la préfecture, on était en attente du jugement du tribunal administratif. Donc, il s'est retranché derrière ça en disant que c'était pas de son ressort, que c'était un jugement et que voilà.
Bon. Alors, ce jugement, est-ce que vous avez pris un avocat ?
Bien sûr, oui.
D'accord. Et votre avocat, il vous dit quoi ? Parce qu'il y a un jugement qui est motivé donc par un arrêté administratif, mais qui est motivé par uniquement le fait « monsieur n'est pas français, donc il est rentré sans papier, donc il est en situation d'illégalité sur notre territoire et il doit s'en aller. Mm-hmm. » C'est tout.
Tout à fait.
Ça se résume à ça ?
Ça se résume à ça.
D'accord.
Ça se résume aussi à... il n'a pas d'attache familiale assez profonde. C'est-à-dire que moi, sa propre femme, je ne suis pas d'une attache familiale assez profonde.
Ah bon ?
Ouais. Ça, c'est difficile aussi. C'est des choses qui sont très difficiles à entendre. Mais oui, je ne suis pas d'une attache familiale assez profonde ou notre mariage n'est pas suffisamment long jusqu'à maintenant.
Bon,
donc c'est des choses difficiles.
J'entends combien c'est difficile et on en arrive maintenant à cette situation difficile qui va vous mettre en danger parce que une grève de la faim c'est dangereux, hein, Florence.
Oui, je suis consciente de ça, c'est dangereux. Genre, j'ai envie de vous dire oui, c'est dangereux, mais je peux vous dire que le stress que l'on vit au quotidien, mon mari et moi, est d'autant plus dangereux pour notre santé. Je pense que ces derniers mois ont été plus néfastes à notre santé que le jeûne que l'on vient d'entamer. À un moment donné, on ne peut plus vivre comme ça. Donc, dangereux, oui, je suis consciente, je suis bien consciente de ça. Mais on n'a pas d'autre solution.
Alors, cette grève de la faim... cette grève de la faim, vous l'entamez... vous avez mis la presse au courant dans votre région ?
Oui.
Vous avez,
Oui, c'est médiatisé, bien sûr.
D'accord. Oui. Et vous l'avez commencé depuis combien de temps ? Depuis aujourd'hui, hein ?
Oui, on l'a commencé hier soir à minuit, en fait.
D'accord.
Ça va bientôt faire 24 heures.
Donc, c'est une grève de la faim avec de l'eau ou sans eau ? Parce qu'il y a plusieurs étapes dans la grève de la faim. Je sais que...
On se nourrit de thé et de bouillon, en fait.
D'accord.
Donc, c'est uniquement liquide. Et voilà, et on espère tenir le coup, le temps qu'il faudra. En tout cas, on est remonté pour tenir le coup le temps qu'il faudra, ouais.
Oui, mais vous savez qu'à un moment, ça peut... Voilà, il peut y avoir des complications, hein, vous le savez,
oui.
Florence.
Oui, on a un suivi médical. On ne fait pas ça non plus n'importe comment. Mm-hmm. On a quand même un suivi médical, on voit un médecin qui surveille, hein, qui va surveiller nos constantes, notre taux de sucre et nos choses comme ça, oui.
Bon, d'accord. Malheureusement, vous sentez qu'il n'y a que ça qui peut alerter les pouvoirs publics et en tout cas leur faire prendre conscience que vous êtes tous les deux déterminés ?
Oui. Oui, non, mais j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Parce que si on ne fait pas ça, on se fera jamais entendre.
Oui, parce pour vous, c'est le cauchemar total pour tous les deux, là.
Mais on peut pas continuer à vivre comme ça. On n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à faire de projets. Aujourd'hui, on vit sur un salaire, c'est compliqué. C'est pas simple. On peut pas acheter un appartement, on peut pas voyager, on peut pas. On n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas à vivre correctement. Mon mari ne supporte plus d'être dépendant de moi, ce que je peux comprendre, de me voir galérer, hein, entre guillemets, lui d'être là, de rien pouvoir faire, ça c'est plus possible. On demande juste le droit pour lui de travailler, pour pouvoir vivre dignement, normalement, comme tout le monde. Il n'est pas là pour profiter d'un système où on ne demande pas des aides telles qu'elles soient.
Mais je ne sais pas
on
si vous écoutez.
Au travail.
Je ne sais pas si vous écoutez régulièrement la Libre Antenne, mais nous avons une auditrice qui nous a appelé plusieurs fois, et notamment la première fois pour l'un de ses employés qui travaillait dans son bar près de Bastille, là-bas, et qui était cuisinier, qui était apprécié de tout le monde, et qui, d'un seul coup, après un contrôle d'URSSAF, bim. Plus le droit de travailler, plus rien. Mais on va marquer une petite pause et puis on va continuer cette discussion. Vous restez avec moi, Florence, on se retrouve dans quelques secondes.
Très bien.
Florence, maintenant, oui. Vous allez aller jusqu'au bout de cette grève de la faim. Vous pensez que ça va bouger, là, parce que, est-ce que vous vous sentez suivi par la presse Est-ce que vous sentez qu'il y a un peu un élan derrière vous deux ?
Oui, oui, oui. On se sent suivi par la presse, tout à fait. Oui, on ira jusqu'au bout. Après, si j'ai entamé cette grève, enfin, si on a entamé cette grève de la faim, c'est qu'on y croit. Sinon, on ne l'aurait pas tenté. Mais c'est vrai qu'on a bon espoir de se faire entendre.
Parce que là, vous êtes bien consciente que c'est qui tout double.
Oui.
Vous braquez les projecteurs sur vous et sur votre mari, donc sur votre couple, ce qui veut dire que tout ce qu'il craint, hein, aujourd'hui, votre mari, eh bien, ça y est, ça arrive.
Oui. Oui, mais il faut bien comprendre qu'on n'en peut plus et qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça.
Complètement. Mais moi, je l'entends complètement et je le comprends. Hein, mais malheureusement, vous voyez, je ne suis pas préfet, quoi.
Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'on prend des risques, mais on est obligé. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrive à vivre correctement.
Complètement. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que vous êtes tous les deux amoureux. Et que,
oui.
Et qu'aujourd'hui, au nom... Alors, au nom de quelque chose qui est sérieux, bien évidemment, parce que je sais que derrière toutes ces applications Europe 1, toutes ces radios allumées, certains pensent que, voilà, qu'aujourd'hui, un homme qui n'a pas ses papiers n'a pas à faire quoi que ce soit sur le territoire français. Sauf que si, là, il y a une histoire d'amour, il y a un mariage, il y a une histoire vraie, une histoire épaisse, une histoire... Oui, une histoire de vie qui est en train qui a pris forme depuis un moment. Et il va falloir vous battre de toute façon. Lorsque je dis que vous êtes suivi, est-ce que vos familles, alors votre famille surtout à vous, est-ce que vous vous sentez épaulé aussi de votre côté ?
Ah oui, bien sûr, ils sont avec nous, ça il y a pas de souci. Ahmed a été très très vite intégré dans ma famille malgré certains préjugés, hein, certains a priori. Il a su faire sa place, il a su gagner la confiance des gens, il a su voilà. Donc aujourd'hui, il est très très apprécié au sein de ma famille, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants. Tout se passe très très bien, donc ils sont derrière nous, bien sûr. Oui.
Bon, bah écoutez ça, parce que ça c'est très important. Je pense que alors j'ai peut-être la naïveté de penser que à la fin, dans ce type d'histoire, ce sont les gentils qui gagnent. Mais je me dis que contre l'amour, comme ça, contre l'histoire d'amour qui est validée et qui est validée par votre famille, je pense qu'il va bien falloir que les pouvoirs publics se rendent compte que c'est comme ça et qu'il va falloir donner la chance à Ahmed de pouvoir vivre son histoire avec vous et puis sa vie ici.
J'espère qu'ils vous entendent.
Écoutez, du côté de Besançon, comme partout, on est très écoutés. Hein, cette libre antenne, elle est très écoutée. Il y a toujours des oreilles intéressantes qui traînent. Et c'est sûr qu'il y aura un écho du témoignage que vous avez livré ce soir. Et vous avez bien fait de nous appeler. Parce que c'est comme ça qu'on évoque les choses et de manière aussi... En fait, c'est la véracité ce soir qui remonte à la surface dans votre histoire. C'est ces oreilles, elles vont entendre que vous êtes marié, que vous vous aimez, qu'il y a une promesse d'embauche et que cet homme, il ne demande rien d'autre que de faire sa vie avec vous tranquille et de devenir
un
citoyen
exactement
comme un autre et de participer à cette société. Voilà.
C'est exactement ça.
Bah écoutez, j'ai essayé de résumer, et si c'est exactement ce que vous pensez, tant mieux, ma chère Florence. Donc, tenez-nous au courant, bien évidemment, de la suite des événements. Vous savez, maintenant, vous connaissez le chemin. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant, d'accord ?
Très bien, je le ferai, avec plaisir.
Avec grand plaisir, nous sommes là. On vous embrasse.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.